Guerre et paix. Première partie, chapitre 3, scène 8. Le lendemain de l'entrevue de Boris et de Rostov, les troupes autrichiennes et russes, au nombre de 80 000 hommes, y compris celles qui arrivaient de Russie et celles qui avaient fait la campagne, furent passées en revue par l'empereur Alexandre, accompagné du Césarévitch et de l'empereur François, suivi d'un archiduc. Dès l'aube du jour, les troupes, dans leur tenue de parade, s'alignaient sur la plaine devant la forteresse. Une masse mouvante, au drapeau flottant, s'arrêtait au commandement des officiers, se divisait et se formait en détachements, se laissant dépasser par un autre flot bariolé d'uniformes différents. Plus loin, c'était la cavalerie, habillée de bleu, de vert, de rouge, avec ses musiciens en uniforme brodé qui s'avançaient au pas cadencé des chevaux noirs, gris et alezans. Puis venait l'artillerie, qui, au bruit des reins de ses canons reluisants et tressautant sur leur affût, se déroulait comme un serpent entre la cavalerie et l'infanterie pour se rendre à la place qui lui était réservée, en répandant sur son passage l'odeur des mèches allumées. Les généraux en grande tenue, chamarrés de décorations, colère levée et la taille serrée, les officiers élégants et parés, les soldats aux visages rasés de frais, aux fourniments brillants, les chevaux bien étriés, à la robe miroitante comme le satin, à la crinière bien peignée, tous comprenaient qu'il allait se passer quelque chose de grave et de solennel. Du général au soldat, chacun se sentait un grain de sable dans cette mer vivante, mais avait conscience, en même temps, de sa force, comme partie de ce grand tout. Après mains efforts, à 10 heures, tout fut prêt. L'armée était placée sur 3 rangs. La cavalerie en premier, l'artillerie ensuite, et l'infanterie en dernier. Entre chaque arme différente, il y avait un large espace. Chacune de ces 3 parties se détachait vivement sur les 2 autres. L'armée de Kutuzov, dont le premier rang de droite était occupé par le régiment de Pavlograd, puis les nouveaux régiments de l'armée et de la garde arrivés de Russie, puis l'armée autrichienne, tous, rivalisant de bonne tenue, étaient sur la même ligne et sous le même commandement. Tout à coup, un murmure, semblable à celui du vent bruissant dans le feuillage, parcourut les rangs.
« Ils arrivent ! Ils arrivent !»
s'écrièrent quelques voix. Et la dernière inquiétude de l'attente se répandit comme une traînée de poudre. Un groupe s'était en effet montré dans le lointain. Au même moment, un léger souffle traversant le calme de l'air agita les flammes des lances et les drapeaux, dont les plis s'enroulaient autour des hampes. Il semblait que ce frissonnement témoignât de la joie de l'armée à l'approche des souverains.
« Silence !»
cria une voix. Puis, ainsi que le chant des coqs se répondant aux premières lueurs de l'aurore, le mot fut répété sur différents points, et tout se tut. On n'entendit plus, dans ce calme profond, que les pas des chevaux qui approchaient. Les trompettes du premier régiment sonnèrent une fanfare dont les sons entraînants paraissaient sortir de ces milliers de poitrines joyeusement émues à l'arrivée des empereurs. À peine la musique avait-elle cessé que la voix jeune et douce de l'empereur Alexandre prononça distinctement ces mots.
« Bonjour, mes enfants !»
Et le premier régiment fit éclater un hourra si retentissant et si prolongé que chacun de ces hommes tressaillit à la pensée du nombre et de la puissance de la masse dont il faisait partie. Rostov, placé au premier rang dans l'armée de Kutuzov, la première sur le passage de l'empereur, éprouva, comme tous les autres, ce sentiment général d'oubli de soi-même, d'orgueilleuse conscience de sa force et d'attraction passionnée vers le héros de cette solennité. Il se disait qu'à une parole de cet homme, toute cette masse, et lui-même, infime atome, se précipiterait sur le feu et dans l'eau, tous tout prêts à commettre des crimes ou des actions héroïques. Et il se sentait frémir et presque défaillir à la vue de celui qui personnifiait cette parole. Les cris de « Hourra ! Hourra !» retentissaient de tous côtés. Et les régiments, l'un après l'autre, sortant de leur immobilité et de leur silence de mort, étaient évoqués à la vie lorsque l'empereur passait devant eux. Il les recevait au son des fanfares, en poussant des hurrahs qui se confondaient avec les hurrahs précédents en une clameur assourdissante. Au milieu de ces lignes noires, immobiles, qui semblaient pétrifiées sous leur large shako, des centaines de cavaliers caracolaient dans une élégante symétrie. C'était la suite des deux empereurs, sur qui était concentrée toute l'attention contenue et émue de ces 80 000 hommes. Le jeune et bel empereur, en uniforme de garde à cheval, le tricorne posé de côté, avec son visage agréable, sa voix douce et bien timbrée, attirait surtout le regard. Rostov, qui était placé non loin des trompettes, suivait de sa vue perçante l'approche de son souverain, et lorsqu'il en eut distingué, à 20 pas, les traits rayonnants de beauté, de jeunesse et de bonheur, il se sentit pris d'un élan irrésistible de tendresse et d'enthousiasme. Tout dans l'extérieur du souverain le ravissait. Arrêté en face du régiment de Pavlograd, le jeune empereur, s'adressant à l'empereur d'Autriche, prononça en français quelques paroles et sourit. Rostov sourit aussi, et sentit que son amour ne faisait que croître. Il aurait voulu lui en donner une preuve, et l'impossibilité de le faire le rendait tout malheureux. L'empereur appela le chef du régiment.
« Mon Dieu, que serait-ce s'il s'adressait à moi? J'en mourrais de joie. Messieurs, je vous remercie de tout mon cœur. »
Et Rostov crut entendre une voix du ciel.
« Vous avez mérité les drapeaux de Saint-Georges et vous vous en montrerez digne. »
« Rien que mourir, mourir pour lui !»
se disait Rostov. À ce moment éclatèrent de formidables hurrahs, auxquels se joignit Rostov de toute la force de ses poumons, pour mieux témoigner, au risque de se briser la poitrine, du degré de son enthousiasme. L'empereur resta quelques instants indécis.
« Comment peut-il être indécis ? »
se dit Rostov. Mais cette indécision lui parut aussi majestueuse et aussi pleine de charme que tout ce que faisait l'empereur, qui, ayant touché, du bout de sa botte étroite, comme on l'y portait alors, sa belle jument bébrun, rassembla les rênes de sa main gantée de blanc et s'éloigna, suivi du flot de ses aides de camp, pour aller s'arrêter, de plus en plus loin, devant les autres régiments. Et l'on ne voyait plus à la fin que le plumet blanc de son tricorne, ondulant au-dessus de la foule. Rostov avait remarqué Bolkonski parmi les officiers de la suite. Il se rappela la dispute de la veille et se demanda s'il fallait, oui ou non, le provoquer.
« Non, certainement, »
se dit-il.
« Peut-on penser à cela à présent ? Que signifient nos querelles et nos offenses quand nos cœurs débordent d'amour, de dévouement et d'exaltation ? J'aime tout le monde et je pardonne à tous. »
Lorsque l'empereur eut passé devant tous les régiments, ils défilèrent à leur tour. Rostov, monté sur Bédouin, qu'il avait tout nouvellement acheté à Denisov, passa le dernier de son escadron, seul et bien en vue. Excellent cavalier, il éprona vivement son cheval et le mit au grand trot. Abaissant sur son poitrail sa bouche écumante, la queue élégamment arquée, fendant l'air, rasant la terre, jetant haut et avec grâce ses jambes fines, Bédouin semblait sentir, lui aussi, que le regard de l'empereur était fixé sur lui. Le cavalier, de son côté, les jambes en arrière, la figure rayonnante et inquiète, le buste correctement redressé, ne faisait qu'un seul avec son cheval, et ils passèrent tous deux devant l'empereur dans toute leur beauté.
« Bravo, les hussards de Pavlograd !»
dit l'empereur.
« Mon Dieu, que je serais heureux s'il voulait me dire là tout de suite de me jeter dans le feu !»
pensa Rostov. La revue terminée, les officiers nouvellement arrivés et ceux de Kutuzov se formèrent en groupe et s'entretenirent des récompenses, des Autrichiens et de leur uniforme, de Bonaparte et de sa situation critique. Surtout lorsque le corps d'Essen les aurait rejoints et que la Prusse se serait franchement alliée à la Russie. Mais c'était la personne même de l'empereur Alexandre qui faisait le fond de toutes les conversations. On se répétait chacun de ses mots, de ses mouvements, et l'enthousiasme allait toujours croissant. On ne désirait qu'une chose, marcher à l'ennemi sous son commandement, car avec lui, on était sûr de la victoire. Et, après la revue, l'assurance de vaincre était plus forte qu'après deux victoires remportées.